Soir, nous allons étudier Matthieu 21, donc Matthieu 21, du verset 33 verset 46. Et puis également, nous allons, si vous pouvez déjà vous préparer à lire un passage qui est relié à ce passage-là, qui se trouve en Ésaïe chapitre 5. Donc nous allons lire Matthieu 21, à partir du verset 33 jusqu'au verset 46. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Et Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc l'événement qui est décrit dans ce passage, il a lieu donc dans cette semaine qui précède la crucifixion de Jésus. Il se produit le lendemain en fait de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, également le lendemain en fait de ce nettoyage du temple en fait, donc sur lequel notre frère Timothée a prêché hier. La tension est vraiment très forte. En fait, quand on lit les chapitres donc de Matthieu 21 jusqu'à la fin, on voit que c'est une succession d'altercations, de discussions vives entre Jésus et les leaders religieux, les pharisiens et les scribes. Et la tension va être ainsi soutenue jusqu'à son arrestation. Jésus vient de leur dire, juste avant cette parabole, il vient de leur dire que les publicains et les prostituées les devanceront dans le royaume de Dieu, parce qu'ils ont cru au message de Jean-Baptiste, et qu'ils ne se sont pas repentis. Et maintenant, il va dire une parabole qui est à peine voilée en ce qui les concerne, donc qui les concerne directement. Et en fait, cette parabole, elle est d'autant plus, je dirais, à peine voilée, qu'elle ne peut pas ne pas leur rappeler un passage du prophète Ésaïe, donc qui se trouve en Ésaïe chapitre 5, et qui ressemble beaucoup à la parabole que Jésus vient de dire. Et donc nous allons lire dans Ésaïe chapitre 5, des versets 1 à 7. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, Soyez juge entre moi et ma vigne. Qu'est-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épis n'y croîtront, et je donnerai mes ordres nués, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici du sang versé. de la justice, et voici des cris de détresse. En combinant ces deux passages, on voit trois choses. Tout d'abord, on voit l'amour profond de Dieu pour son peuple. Il compare la maison d'Israël à une vigne dont il a pris le plus grand soin, en la plantant sur un coteau fertile, il l'a entourée avec une haie, il a construit une tour, il a enlevé les pierres. Il a mis un plan délicieux, il avait prévu une cuve pour y recueillir du bon vin. Il espère en retirer le meilleur. Il envoie ses serviteurs pour en retirer du fruit, mais ils sont battus. Pourtant, il ne se décourage pas. Il en envoie d'autres, en plus grand nombre, tellement sa vigne est importante pour lui. Mais eux aussi, ils sont battus, ils sont lapidés, comme les premiers. Ses serviteurs sont l'image des prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus parle ici de ces nombreux prophètes qui ont été envoyés au peuple d'Israël. Plus loin, Matthieu 23, 35, quelques chapitres plus loin, Jésus dit ceci aux pharisiens. Il leur parle du sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Il y a des prophètes donc, qui ont écrit des livres, ils sont assez nombreux, mais il y a aussi beaucoup de prophètes qui n'ont pas écrit de livres, mais donc, dont le témoignage est rapporté dans les livres historiques, comme par exemple Élie, Élisée, Moïse, et puis beaucoup d'autres. Ils ont tous eu comme caractéristique, tous, de reprendre le peuple d'Israël à cause de son péché. Et ils ont souvent risqué leur vie, voire perdu leur vie. Mais cette vigne, elle est tellement importante pour Dieu que, non content d'avoir envoyé les prophètes qui ont été mis à mort, il lui envoie son fils, Jésus. Et c'est vrai que on doit se rappeler que Jésus est venu prêcher principalement aux Juifs. Paul a dit de Jésus que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. C'est en Romains 15, verset 8. Mais le même Paul, dans le même épître aux Romains, chapitre 10, verset 21, a dit que Dieu a tendu ses mains tout le jour à un peuple rebelle et contredisant. On peut donc pas minimiser l'intensité de l'amour de Dieu pour son peuple d'Israël. On sait évidemment que la mission de Jésus dépasse largement le peuple d'Israël, mais c'est à eux qu'il a été envoyé en premier et il est le point culminant des soins que Dieu a accordés à son peuple d'Israël. Maintenant, deuxièmement, on voit la colère de Dieu. On voit la colère de Dieu. Dieu est profondément déçu par ce peuple. Il dit ceci, « Les hommes de Judas, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Alors, il arrache la clôture de la vigne, elle est foulée aux pieds, réduite en ruine, les ronces et les épines y croîtront, etc. » Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. D'abord pour le royaume de Juda, au VIe siècle, et c'est ça que probablement donc Ésaïe effectivement annonçait. Alors, je dis probablement parce qu'il y avait aussi le royaume d'Israël qui a été envahi par la Syrie, donc on a deux calamités qui sont venues à en gros 100 ans d'écart sur le peuple d'Israël. Donc Jérusalem a été détruite par les Babyloniens, le peuple emmené en captivité. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc 40 ans après le ministère de Jésus, Rome a envahi donc Jérusalem, a brûlé le temple et toute la population qui s'y trouvait a été massacrée et on dit que des centaines de milliers de personnes ont péri. Et au chapitre 23, Jésus a cette phrase terrible et c'est la dernière phrase qu'il prononce. Donc au leader religieux, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Et probablement qu'il parle de cette chute de Jérusalem qui va se produire. Alors, on ne doit pas penser que Dieu a été surpris par le comportement de la maison d'Israël. Dieu est surpris en rien, il connaît toutes choses. Il a ordonné toutes choses depuis la fondation du monde. Et sa colère, ce n'est pas la furie intempestive d'un amant bafoué et déçu. C'est la profonde tristesse de Dieu devant le péché de ceux qu'il aime. Il le sait depuis la fondation du monde. Il en est profondément assisté, même s'il contrôle parfaitement toute chose, comme il a contrôlé, nous le savons bien, la mort de son fils. Mais Jésus n'est jamais l'auteur du péché. Et Dieu, pardon, n'est jamais l'auteur du péché. Et il l'a en horreur. Maintenant, nous voyons troisièmement une pierre. Nous voyons donc dans ce passage une pierre. Alors, quel était le problème des pharisiens? Le problème des pharisiens, c'était Jésus. Jésus se compare à une pierre et ce faisant, en fait, il cite plusieurs passages de la Bible, notamment un verset in extenso du psaume 118, mais il fait également référence à Ésaïe chapitre 8. Et puis, probablement aussi, on verra à Ésaïe chapitre 28. Une pierre, elle peut avoir plusieurs usages et plusieurs effets. D'abord, on peut trébucher sur une pierre. C'est ce que la Bible appelle une pierre d'achoppement ou un rocher de scandale. Et les pharisiens, ils ont. Paul cite aussi cette image de pierre en parlant des pharisiens. Il cite exactement le Ésaïe chapitre 8 et il dit ceci. Donc, c'est dans l'Épître aux Romains. Il dit: Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et donc, Paul cite Ésaïe 8, versets 14 et 15. C'est à cause de leur orgueil que les pharisiens ont trébuché sur cette pierre. Ils ont refusé de se repentir au message de Jean-Baptiste. Ils ont refusé de s'humilier devant Jésus et de mettre leur confiance en lui. Ils préféraient mettre leur confiance dans leurs œuvres, nous dit ce passage. Ils ont rejeté l'évangile. Et comme ce que Jésus disait les condamnait, eh bien, ils ont préféré le tuer. Mais une pierre, ça peut être quelque chose sur quoi on trébuche, ça peut être aussi une chose sur laquelle on s'appuie. Et le même prophète Ésaïe a un passage au chapitre 28, verset 16, où il dit ceci: C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc la pierre, elle peut être une occasion de chute, et elle peut être aussi un socle et un solide fondement si on s'appuie sur elle et si on construit sur elle. La pierre d'angle, c'est celle qui tient tout l'édifice. Et les pharisiens, ils étaient ceux qui baptisaient, qui avaient pour mission de bâtir la maison de Dieu. Mais ils ont rejeté la pierre principale, ils ont rejeté la pierre d'angle, ils ont rejeté Jésus. Et Pierre, l'apôtre Pierre, dans les Actes, toujours sur ce thème de la pierre d'angle, au chapitre 4, verset 11, il dit ceci: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, pour terminer, quel enseignement nous pouvons tirer de tout cela? Je dirais qu'il y a deux enseignements. Il y en a un enseignement collectif qui est pour l'Église et un enseignement individuel pour chacun d'entre nous. La maison d'Israël, les scribes, les pharisiens, les leaders religieux de l'époque, c'était en quelque sorte l'Église du temps de l'Ancien Testament. Dieu l'aimait profondément. Et il en attendait beaucoup. C'est eux qui devaient bâtir la maison de Dieu, mais ils ont rejeté la pierre d'angle. Ils ont rejeté Christ et ils ont été jugés. Et ne croyons pas qu'il ne puisse pas nous arriver la même chose, prétexte que nous vivons de ce côté-ci du Nouveau Testament. Jésus a dit ceci à l'église d'Éphèse. Il a parlé à cette église dans le livre de l'Apocalypse. Et la première, c'était l'église d'Éphèse. Et voici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit: Tu as abandonné ton premier amour, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Alors, est-ce que l'Église évangélique de notre siècle prend appui sur Jésus-Christ ou est-ce qu'elle trébuche sur Jésus-Christ? Jésus a dit, dans son passage, dans le passage que nous avons lu, il a dit qu'il va. Il a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. qui en rendra les fruits? Est-ce que l'Église de notre siècle, l'Église de notre époque, rend ces fruits que les pharisiens n'ont pas rendus? Ensuite, il y a une question pour chacun d'entre nous. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que Jésus est pour nous une pierre d'achoppement ou bien une pierre d'angle? Est-ce qu'il est un rocher de scandale ou est-ce qu'il est un fondement éprouvé? Il me semble que le problème majeur, je dirais c'est mon expérience, le problème majeur des gens pour venir à Christ, c'est le même problème que celui des pharisiens, c'est le repentir. Le repentir, il entraîne une bonne dose d'humiliation et c'est très difficile. Mais les publicains et les prostituées n'avaient pas ce problème. On leur avait assez fait savoir dans la culture juive qu'ils étaient des misérables. Et c'est pour ça qu'ils ont suivi si volontiers Jean et Jésus. Leur problème, ce n'était pas de se reconnaître pécheurs, ils le savaient bien. Leur problème, c'était de trouver la solution de leur péché. Et quand ils ont trouvé Jésus, ils ne l'ont plus lâché. Et Jésus est devenu leur pierre d'angle. Alors les gens dans le monde, ils disent beaucoup de bien de Jésus. J'ai rarement entendu des gens dire du mal de Jésus. Mais ils en disent du bien jusqu'à ce que Jésus leur parle de leur péché. Si vous venez à Jésus, il vous parlera d'abord de votre péché. Lorsqu'il a parlé avec la femme samaritaine, il lui a dit « Amène ton mari ». Et il savait bien que le problème de cette femme, c'était sa vie morale et déréglée. Il lui a dit très gentiment. Il ne l'a pas condamné. Il lui a très gentiment dit « Amène ton mari ». Mais cette femme, elle était au bout du rouleau de sa vie de misère. Elle n'avait plus d'orgueil. Elle avait juste besoin de pardon et Jésus est devenu sa pierre d'angle. Mais quand Jésus a parlé aux pharisiens de leur péché, ils n'ont pas supporté, ils ont trébuché sur lui et ils l'ont tué. Et est-ce que quand on vous parle de votre péché, ça vous rend nerveux et ça vous met mal à l'aise? Est-ce que Jésus est pour vous une pierre d'achoppement? Puisse le Seigneur donner à chacun d'entre nous le cœur de la femme samaritaine et que nous acceptions l'humiliation du repentir pour pouvoir construire et se nous appuyer sur lui. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce passage qui nous reprend. Nous avons tous en nous cet esprit de pharisien. Nous aussi, nous sommes nerveux lorsque tu nous parles de notre péché. Mais Seigneur, nous venons à toi et nous demandons de nous donner le cœur des publicains, des prostituées, de la femme samaritaine. Donne-nous, Seigneur, cette humilité. Donne-nous, Seigneur, de nous repentir avec joie, afin que nous puissions construire et nous appuyer sur la pierre d'angle. Je te prie, Seigneur, en ce nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous.